Il y a parfois dans la vie des événements qui vous arrivent et qui vous font penser à des histoires dans la Bible. Et j'ai pensé à une histoire. Je me dis toujours que les gens qui sont nés dans l'Église et qui ont eu la bénédiction d'avoir les histoires bibliques sont bien plus avantagés que moi, car j'ai dû rechercher où se trouvait cette histoire. C'était une histoire que j'avais déjà lue. Et je me dis, mais où est cette histoire? Et j'ai cherché un petit moment. Et je l'ai retrouvée. C'est cette histoire d'Élisée. Vous savez, cet grand prophète qui va faire énormément de miracles. Et il y a une histoire qui est extrêmement touchante. Et je vais vous la lire. C'est dans 2 Rois, chapitre 4, du verset 8 à 37. Écoutez bien cette histoire, elle est très intéressante. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint Airain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Élisée va faire énormément de miracles. Là, c'est un beau miracle que Élisée va faire. C'est la résurrection de l'enfant de cette femme Sunamite. Et le prophète Élisée avait pourtant dit à Géasi, « Tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. » Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Géasi, finalement, n'a pas l'esprit bien disposé pour cela. Et finalement, lorsqu'on connaît toute son histoire, on sait que c'est un jeune homme qui va être égoïste. Vous savez, vous connaissez le miracle avec Naaman, hein, qui doit se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre. Et Naaman, qui est le chef des armées syriennes, va demander à Élisée, « Mais qu'est-ce que je peux te donner ?» Élisée dit rien. C'est Dieu qui a tout fait. Élisée s'en va, et Géasi retourne et court vers le char du chef de l'armée, et finalement lui demande de l'argent. Et alors, il prend l'argent, et il retourne chez lui. Et Élisée l'apprend, bien sûr. Et Élisée va lui dire, « Mais tu es terrible. » Et finalement, la lèpre va frapper Géasi. Donc c'est un jeune homme qui est égoïste, ambitieux. Et on peut imaginer avec quelle fierté il s'en va avec le bâton d'Élisée. Vous vous rendez compte, c'est ça qui va provoquer la résurrection de ce jeune enfant. Ce bâton qui a frappé le Jourdain et qui a divisé l'eau en deux. Et ce bâton est maintenant dans sa possession. Il s'imagine peut-être qu'il va faire de grandes choses en le portant sur le visage du garçon qui est mort. Mais il n'y a ni voix, ni réaction. Alors, ce bâton qui représente la parole de Dieu, est-ce qu'il est possible de prendre la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est puissante pour donner la vie et de l'employer? Est-ce qu'on peut l'employer sans effet? C'est évident. De telle façon qu'il n'y ait ni voix, ni réaction. Oui, c'est possible. Pour que la parole ou pour que le bâton soit de quelque utilité dans nos mains, il faut que nous soyons en contact avec celui qui est la source de la vie et de la puissance. Il faut que Dieu nous accorde de ne pas être sans puissance comme Géasi. Et vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi cette histoire? Vendredi soir, il y avait l'espace café, et souvent on y vient avec des pieds de plomb. Là, ce n'était pas des pieds de plomb, c'était des chaînes. Il faisait froid, j'avais eu une journée pas terrible, j'avais envie de rien faire dans le canapé, à regarder des bêtises à la télévision et de m'endormir. Et je suis parti comme Géasi avec le bâton. Et je me suis dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Et lorsque nous sommes arrivés vendredi soir-là, j'ai vu mes frères et mes sœurs distribuer avec ferveur l'évangile, parler avec les gens. Et on a eu une discussion avec quelqu'un, avec Anna. Et je regardais Anna, je voyais toute sa candeur de parler à ce monsieur. Je lui dis, mais ça m'a donné un coup de... Et là, j'ai laissé le bâton de Géasi et je me suis dit, oui, Seigneur, tu vas me donner cette puissance pour rester là. Et pour... J'étais vraiment... subjugué par la façon dont mes frères et mes sœurs couraient après des gens qui passaient, leur offrir un café. Et finalement, on se dit, ben, à quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'on parle dans le vide? Non, Nous ne parlons pas dans le vide, mais il faut être persuadé que la puissance de Dieu est là avec nous. Alors, on voit la différence avec Élisée. Qu'est-ce qu'il commence par faire ? Il commence par prier. Il commence par prier. Il va se coucher lui-même sur l'enfant et supplier l'Éternel avec ferveur. Chaque geste qu'il fait va dénoter de l'intensité de son travail qu'il va faire, la ferveur avec laquelle il demande la vie de l'enfant et la dépendance qu'il a de Dieu. C'est ce que nous devons avoir, la dépendance. Seigneur, non, on n'est rien. On est là et avec nos difficultés, avec parfois nos pieds de plomb ou nos chaînes qui sont là, et on est des Géasi finalement. On est là avec le bâton et puis on le dépose sans rien faire. Il faut demander la puissance de Dieu avec nous. Alors, on doit vraiment retenir cette idée, cette leçon, parce que, comme toutes les choses qui sont écrites dans la Bible, elles ne sont pas écrites simplement pour nous raconter une histoire. Elles sont là pour notre instruction. Et c'est l'apôtre Paul, vous vous souvenez, en chapitre 15, verset 4, qui dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est parce que nous avons ce bâton de la parole. Ne l'utilisons pas comme Géasi, utilisons-le comme Élisée, qui croit vraiment à la puissance. Et je voyais Jacques Rémy avec son bras en écharpe, et je le voyais au froid, et je voyais qu'il avait mal, et qu'il parlait avec les gens. Ça m'a donné énormément de force. Je me dis, mais moi, j'ai même pas mal à l'épaule, je suis en pleine forme, et je suis là à être un Géasi. Je voyais Landou courir après les gens pour leur distribuer les papiers. Et pourtant, cette soirée-là était incroyable. On a vu des CRS débarquer, courir après des gens. En rentrant ici, on s'est pris des gaz lacrymogènes. La voiture des policiers est montée sur le trottoir entre le magasin. Et il y avait la voiture d'Anna. Je dis, t'as mis ta voiture là, mais... Et j'ai vu le policier sortir sa matraque et puis commencer à... Oh, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait là? Et là, Géasi reprenait de la force sur moi. Et je me dis, Seigneur, donne-moi la force et la puissance que ta parole donne pour pouvoir annoncer à des gens qui... On a presque parlé, on a que à des SDF qui n'avaient pas mangé depuis 2 jours. Il y a des gens qui ont mangé la moitié de la boîte de gâteaux. Ils ne faisaient que dire, c'est le dernier, hein, c'est le dernier. Et ils prenaient du café. Et j'étais super surpris qu'ils mettaient pratiquement autant de sucre que de café. Mais je comprends, des gens qui vivent dans le froid, qui ne mangent pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à leur proposer, l'évangile de Matthieu ou de Jean et de Luc ? Et je me dis, Seigneur, il faut vraiment que nous ayons en nous cette puissance qui nous permette de croire que ce que nous avons discuté avec ces gens, et pourtant des gens qui sont tellement éloignés. La personne qui parlait avec Anna dit, moi, il me faut 150 euros par jour pour ma cocaïne. Alors Anna et moi, on se dit, mais vous avez ça comment ? Ah ben, je vole, hein. Je vais chez Bershka, tout ça, je vole des parfums, je vole tout. Dis, je sais où sont les caméras, je dis, ah là, c'est pas la peine d'y aller, je sais. Alors il dit, mais je vole pas les gens, hein. Je dis, ah bon ? Il dit, non, je vole que les magasins. Alors, je dis, ouais. Et après, il dit, ouais, je casse des vitres et tout ça. Et c'est là qu'on a parlé de l'affaire qui était arrivée à Richard. Et il dit, ah ouais, il était quand même gêné de cette explique. Mais rien que le fait, et je vois Anna dans toute sa candeur dire, c'est pas bien ce que vous faites. Et je me dis, mais voilà, au moins, il a entendu quelque chose. Il a entendu quelque chose. Et c'est là qu'il faut prendre son bâton, mais avec la force que donne la parole de Dieu. Alors, toutes ces confiances dans les promesses que Dieu nous donne, que nous avons apporter l'évangile, même dans un quartier, je qualifierais d'assez difficile et compliqué. Je vois Marc qui opine de la tête. Oui, il était là aussi, Marc. On était là vraiment. Oui, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que la parole de Dieu ne revient pas à vide, même si ces gens-là, sur le coup, ne la prennent peut-être comme ça, à la va-vite, mais ils ont entendu parler de cette parole. Et il faut avoir vraiment la confiance dans les promesses de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Est-ce que nous sommes des Géasi ou est-ce que nous avons comme modèle Élisée? Est-ce que nous croyons que la parole puisse entrer en nous et que nous puissions en profiter? Alors, c'est toujours une question qui a été tout le temps débattue depuis que Jésus est parti, depuis que les apôtres nous ont laissé cette parole. Et il y a un moine oriental au 5e siècle qui s'appelle Jean Cassien, peut-être certains le connaissent, qui a donné une technique pour lire la parole de Dieu. Ça s'appelle la lecture divine. Et donc, il l'a fait en 5 points. Il a dit, la première chose, il faut avoir la force de prier pour que l'Écriture rentre dans nos cœurs. Et ça rejoint le psaume 119 au verset 18 qui dit, et on l'a chanté tout à l'heure, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » La première chose, c'est prier pour contempler les merveilles de la loi de Dieu. La deuxième chose, le deuxième enseignement qu'il dit, c'est de lire le texte plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il se grave dans notre mémoire. La troisième chose, il dit de chercher le sens du texte en nous posant des questions. Qu'est-ce que ce texte veut dire pour moi? La quatrième chose, c'est écouter les mots que la parole nous dit avec humilité et le désir sincère d'obéir. Accepter la parole et passer au crible nos attitudes, nos habitudes, nos choix et nos émotions. Est-ce que vous pensez que lorsque vous parlez à quelqu'un, même qui est tellement éloigné de la parole de Dieu, est-ce que vous pensez que le fait de lui parler de Dieu peut changer quelque chose? Est-ce que vous pensez que finalement vous perdez votre temps et que ça ne sert à rien? Parfois, j'ai cette pensée-là et il faut enlever cette pensée-là de notre cœur. La cinquième chose, c'est se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce passage? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette histoire de Géasi et d'Élisée? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il veut me dire qu'on ne peut rien faire avec la parole de Dieu ou est-ce qu'on peut faire énormément de choses? Confiance dans cette parole et dans la lecture divine, ce moine il a dit une chose intéressante, il a dit « Vous cherchez davantage à être formé et façonné par l'Écriture qu'à être informé par elle. » Il faut chercher à être modelé, à être transformé, et non pas simplement à lire cette histoire, bah ouais, tiens, c'est une histoire qui est intéressante. Finalement, il n'y a qu'Élisée qui est capable de faire des miracles. L'autre, il est un bon à rien. La confiance dans la parole et dans ses promesses, eh bien, c'est ce qui donne la foi. Et Dieu va inscrire ses promesses et sa confiance dans notre cœur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie, chapitre 31, verset 33. L'amour de Dieu n'est pas un amour général et diffus, il est un choix, une élection qui ne peut pas se renier et qui ne dépend pas de la fidélité que nous avons pour Dieu. Dieu nous a choisis. Est-ce que nous sommes sûrs de ça? Et si nos cœurs sont purifiés, alors ils vont être imprégnés de la parole divine. Être sûr que ce que nous pouvons dire pour parler aux gens de l'amour de Jésus, eh bien, est quelque chose qui va marquer. Même si nous tombons sur des cas. Moi, je regarde Patrick et je me dis que c'est son travail journalier. Mais j'étais à des lieux d'imaginer ce que peuvent vivre des gens qui vivent dehors et qui, pour assouvir leur addiction, sont obligés de voler. Et ils ont une technique. Hein. Le gars, il dit maintenant, j'arrête le vol à la roulotte parce que j'ai déjà été pincé. Donc, si je fais du cambriolage, ça sera autre chose. Donc, ça ne sera pas une récidive. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on lui dit vous connaissez bien les lois. Il dit oh, ouais, on apprend à beaucoup de gens. Et. Alors on s'est dit, ben nous, avec notre petit évangile, on arrive là, on dit « le Seigneur t'aime ». Et on est à des kilomètres des difficultés que ces gens ont dans leur vie. Mais il faut avoir cette confiance que en Jésus-Christ, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et il aime même ces gens qui sont tellement loin de ce qu'on pense. Et c'est pas pour les mettre plus bas que terre, mais c'est une telle différence de vie entre ces gens qui souffrent et qui sont dehors, et puis peut-être à cause d'eux-mêmes, hein, c'est pas, mais ils sont dans une telle situation. Dieu va nous offrir à travers sa parole son alliance avec chacun d'entre nous, son alliance qui va résister au bouleversement de la société. On voit ça dans nos vies à l'heure actuelle, la société est en train d'être bouleversée par des tas de choses, des lois qui transforment le mal en bien. Mais cette alliance, elle demeure pour l'éternité. Et nous devons être des témoins calmes et sereins de la fidélité et de la puissance de la parole de Dieu à travers nos bouches. On n'est rien, mais c'est la parole qui travaille. Il faut nous rappeler journellement ces promesses que Dieu nous donne pour qu'elles vivent en nous et par l'Esprit Saint, qu'elles nous donnent cette puissance qui nous est promise. Il faut que l'Esprit de l'Éternel repose sur nous pour que règne sur nous un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force semblable à celui qui était annoncé sur le Messie. Et je voudrais terminer par toujours un prophète, le prophète Ésaïe, qui parle de Jésus et qui parle ce qu'est l'Esprit. Essayons de prendre ça pour nous aussi. Il dit « L'Esprit de l'Éternel repose sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Voilà ce que Dieu nous demande d'avoir en nous. Et alors même si je dirais ce qu'on peut ressentir dans la vie là, ce vendredi soir, bien je suis reparti, j'étais plus Géasi. J'étais pas non plus Élysée, hein, mais j'avais vu mes frères et mes sœurs avec tellement de ça m'a donné un coup incroyable de me dire que finalement c'est toujours comme ça lorsqu'on doit faire quelque chose, c'est parfois un peu difficile hein, de faire ce qu'il faut faire, mais il faut laisser l'Esprit de Dieu rentrer en vous et croire que cette puissance vous appartient pour annoncer l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.